Bonjour tout le monde, Marjorie Théodore avec vous pour cette deuxième émission. Alors c'est encore tout nouveau et merci d'être avec moi pour partager cette passion de donner la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de façon particulière de nos seins. Et oui, je dis bien de nos seins. En effet, sujet délicat pour toutes les femmes. En première partie, ce sera à travers l'expertise de la docteure Michèle Tardy et en deuxième partie avec l'auteur Nathalie Lagacé que j'aurai l'occasion de vous présenter. Donc, durant l'émission, on va essayer de répondre à la question « Comment faire la paix avec nos seins ?» Au cours de la vie, la femme encaisse trois tempêtes hormonales. On parle de la puberté, les grossesses et la ménopause. Ces tempêtes peuvent changer les seins, symbole puissant de notre féminité. Pourquoi est-ce si difficile au fil de la vie d'une femme de laisser ses seins vivre comme ils le sont? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux femmes, la docteure Michèle Tardy, chirurgienne spécialiste en reconstruction, de même que l'auteure illustratrice de l'album « Le poids des seins », Nathalie Lagacé. Docteur Michèle Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, spécialiste en reconstruction, elle a participé à la populaire émission de garde 24/7. Docteur Tardy, bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui.
Ah, merci vraiment de participer à l'émission. Donc, j'ai très hâte de vous entendre et tous les auditeurs, auditrices aussi. Alors, selon les statistiques, 80% des femmes qui seraient insatisfaites de leur sein. Docteur Tardy, pourquoi est-ce si difficile d'aimer nos seins?
Ben, je pense que nos seins sont liés à l'image, en fait, est une image forte, une image de féminité, une image de séduction aussi. Et je pense que on ne les voit pas, on les voit peu, on les garde couverts toujours. Et on peut imaginer beaucoup de choses en voyant des images avec un beau galbe, un beau rebondi en supérieur de la poitrine. Puis on peut penser que ce n'est pas nécessairement ce que nous, on a, mais dans la vraie vie, pour en avoir vu beaucoup, pour avoir un paquet de femmes qui se dévêtissent à la clinique pour le temps de l'examen, puis tout ça, je pense que la réalité est bien différente de nos attentes.
Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a une comparaison aussi entre les femmes de nos seins? On se compare à d'autres?
On s'en parle. On s'en parle beaucoup.
Oui, tout à
fait. Mais pour se comparer, il faut quand même se les montrer.
Ah, oui.
Ça n'est pas dans la culture générale, mais on s'en parle beaucoup entre nous.
En effet. Alors, quelles sont les formes de mal-être qui conduisent les femmes dans votre cabinet le plus souvent? Qu'est-ce qui motive? Comment être la personne, la femme qui arrive à votre cabinet? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous consulter?
Pour en venir me voir à la clinique, en fait, je pense qu'elles ont un malaise avec leur sein. Puis le malaise avec les seins sont principalement de trois types, je vous dirais. Mm-hmm. On parle dans la population générale, on ne parle pas des seins qui sont malades avec des cancers et d'autres tumeurs de seins, mais on parle vraiment dans la population générale.
Ouais.
Donc, les trois choses, c'est soit les seins sont trop petits, mm-hmm, et empêchent les filles de se vêtir correctement, d'avoir un petit galbe. Soit les seins sont trop gros, sont trop lourds et sont source de douleur au niveau des épaules, au niveau du dos. Et la troisième chose, c'est soit les seins ne sont pas de grosseur semblable entre le droit et le gauche. Donc, on parle d'asymétrie mammaire. On a tous les seins qui ne sont pas égales.
Mm-hmm.
Par contre, il y a certaines femmes chez qui il y a une différence qui est vraiment très marquée entre un et l'autre. Et ça va apporter les femmes à consulter.
Ah, d'accord. Donc, dans les trois types de demandes qu'ont les femmes, est-ce qu'il y a une demande qui est beaucoup plus lorsqu'elles viennent de vous rencontrer?
En fait, ça dépend du moment de leur vie. souvent les jeunes femmes, au début de la vingtaine jusqu'à la fin de la vingtaine, vont surtout venir pour une augmentation mammaire. Donc, ils veulent avoir les seins qui sont plus gros. Passé 35-40 ans, les femmes viennent principalement parce qu'elles sont trop gros. Et ce sont les jeunes adolescentes, fin d'adolescente avec les grosses asymétries mammaires qui vont venir nous consulter. Donc, je vous dirais que ça dépend plus de l'âge. C'est l'âge qui va nous amener les femmes à consulter, qui vont guider les problèmes.
D'accord. Pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, je m'entretiens avec Dr Michel Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, spécialiste en reconstruction. Alors, Dr Tardy, ces demandes-là, ce sont des services qui sont professionnels, mais qui sont d'ordre privé aussi. Mais il y a des services aussi qui sont remboursés par la RAMQ, je crois. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, certainement. En fait, tout ce qui est considéré comme chirurgie esthétique ne sera pas couvert par la régie de l'assurance maladie. À ce moment-là, les patientes auront des coûts à débourser pour les frais de l'intervention chirurgicale. Quand on parle de chirurgie esthétique, on parle principalement d'augmentation mammaire esthétique. Mm-hmm. On parle également de correction d'asymétrie mammaire, à condition qu'il y ait une différence entre les deux seins de plus de 150 grammes. Ça, c'est vraiment à l'examen physique qu'on va être capable de statuer si la patiente qui nous consulte a cette différence-là entre les deux seins.
D'accord.
Et puis, tout ce qui est pour que ça soit couvert par la régie de l'assurance maladie au niveau de la réduction mammaire, il faut que lorsqu'on opère les patients, on enlève au moins 250 grammes par sein. Mm-hmm. À ce moment-là, la régie de l'assurance maladie considère que l'intervention est de nature plus fonctionnelle pour régler un problème de dos, de douleur de dos, de douleur d'épaule qu'esthétique.
Je vois. Donc, dans ces demandes-là, c'est sûr que on parle d'esthétique aussi. Si on va au niveau de l'esthétique, est-ce qu'il y a des demandes de femmes dont vous ne pouvez pas combler, que l'idéal des seins, c'est impossible à atteindre? Vous avez souvent ce genre de demandes que c'est impossible d'arriver au résultat demandé?
Oui, en fait, ce qu'il faut statuer avec la patiente, c'est quoi le but de l'intervention chirurgicale. Il faut cibler correctement les attentes des patientes. Une patiente qui arrive avec une photo d'une personnalité connue puis qui me dit « je veux cette poitrine-là », ben on peut essayer d'avoir quelque chose de semblable, mais on n'a aucune garantie de résultat. Parce que souvent, on n'a pas la même carrure, on n'a pas la même ossature. Parfois, on a une asymétrie entre le thorax du côté droit et du côté gauche. Donc, les côtes peuvent être un petit peu plus projetées. Mm-hmm. Puis, on peut ne pas nécessairement avoir le résultat escompté. Donc, ce qu'il faut voir avec la patiente, il faut aller cibler ses attentes. Puis, avec une patiente qui a des attentes réaliste, mm-hmm. ce n'est pas un problème pour avoir des bons résultats.
D'accord.
Mais ce n'est pas quelque chose qu'on choisit comme on choisit dans un catalogue.
Oui.
vous comprenez la différence entre les deux. Hein?
Tout à fait, tout à fait. Est-ce que vous allez aussi plus loin, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui... où il y a l'aspect esthétique de la beauté, mais est-ce que vous allez voir aussi, au fond, qu'est-ce qui motive cette femme à vouloir avoir des seins beaucoup plus gros que ce qu'elle a?
En fait, oui, on va toujours, ça fait partie de notre questionnaire lorsqu'on rencontre les patientes pour voir avec elles leur raison, leur motivation personnelle. Uh-huh. Est-ce qu'elles le font pour elles-mêmes ou elles le font pour d'autres personnes ou pour d'autres raisons? Ça fait partie des choses qui sont évaluées. Puis évidemment, si la patiente a des demandes, c'est-à-dire un volume qui est complètement démesuré,
oui.
ou ou des attentes qui sont complètement pas réalistes, c'est certain que ça arrive parfois qu'on dit aux patientes, ben malheureusement, on procédera pas à l'intervention parce que c'est pas réaliste, parce que ça, c'est trop risqué, parce que vous aurez pas les résultats que vous voulez avoir.
Ah oui.
Donc, on guide les patientes là-dedans également.
D'accord. Ben, écoutez, docteur Tardy, chirurgienne, je rappelle qu'elle est chirurgienne esthétique, spécialiste en reconstruction. Donc, restez avec nous, nous avons une petite pause. On vous revient.
Oui.
Petite, te laisse pas enfermer, t'as toujours su rêver. Petite, je te promets, c'est pas ta faute. Ce monde que t'as imaginé ne saura pas te sauver. Petite, je te promets, t'en verras d'autres. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté, surtout n'oublie pas en toi l'éternel. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer, surtout n'oublie pas en toi l'éternel. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté. T'as grandi, tu te sens pas comme les autres. Tu commences à sortir la nuit, à faire ce qu'on t'interdit. Y'a des étapes qu'il faut pas que tu sautes. Tu rêves de partir, pouvoir choisir, oublier ta peine. 100 fois tu vas tomber, 100 fois croire que c'est terminé, 100 fois tu vas te relever quand même. Que tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté, surtout n'oublie pas en toi l'éternel. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer, surtout n'oublie pas en toi l'éternel. Et quand tu sais plus qui tu es, les vents t'emmènent du mauvais côté, surtout n'oublie pas en toi l'éternel. Et quand t'as besoin de crier, que tu ne vois plus ce qui pourrait changer, surtout
on vient d'écouter Tornade de Louane. Je suis toujours avec la docteure Michèle Tardy, chirurgienne esthétique en reconstruction. Docteur Tardy, les femmes qui ont recours à la chirurgie sont-elles plus jeunes qu'avant?
Non, en fait, non, je ne pense pas. On a vraiment toute une gamme de populations en âge de patientes. Ça part de notre jeune fille qui a 13-14 ans avec un début de croissance de sein. Puis ça va jusqu'à des patientes de 70-72 ans qui viennent nous consulter parce qu'ils ont des seins trop gros, trop volumineux. Puis qui me disent, ben j'ai attendu toute ma vie, je suis plus capable.
Ah, d'accord.
Donc on a vraiment Comme je vous disais tout à l'heure, les problèmes changent avec l'âge, mais on a vraiment toute la gamme de population.
De population. Lorsque vous me parlez d'une jeune fille de, disons, 14, 15, 16 ans, ça, ils viennent plus pour réduction ou augmentation ou asymétrie aussi?
Asymétrie. Souvent, ils vont consulter quand les seins commencent à croître.
Mm-hmm.
Et on a quelques patientes, parce que dans ma carrière, j'ai rencontré quelques jeunes filles si jeunes, 13, 14 ans, avec un problème d'une glande qui se développe d'une façon disproportionnée.
D'accord.
Ils se ramassent avec des seins excessivement volumineux. Donc, on peut se ramasser à enlever jusqu'à 3 kilos par côté.
Wow.
Pour certaines jeunes patientes. Avec le lot de taquinerie,
oui,
si je peux dire,
mm-hmm,
que les jeunes filles peuvent avoir à l'école quand elles se retrouvent avec ce problème-là. Fait, oui, ils peuvent consulter très jeunes, nos demoiselles.
Ok, d'accord. On le voit, bon, il y a eu la pandémie, hein, on est encore en période
oui,
de pandémie. Moi, j'ai lu beaucoup sur le fait, les femmes qui maintenant voulaient porter, donner la liberté, disons, à leur sein, comme on a vu aussi le phénomène des cheveux gris, hein, pendant,
oui,
à l'heure de laisser nos cheveux gris. Mais aussi, il y a eu aussi ce vouloir des femmes de laisser la liberté au sein, et aussi le port de soutien gorge sans amarture. J'aimerais savoir, est-ce que, avez-vous vu une tendance, vous, dans vos clients, dans votre cliente? Est-ce que, pour vous, les femmes acceptent plus ou c'est pareil, ou c'est aussi en augmentation?
Bien, en fait, on voit effectivement, c'est surtout dans la population qui est plus jeune, qui vont avoir tendance à moins porter le soutien-gorge. Souvent, le sein, quand il est jeune, puis la peau est bien ferme, c'est sûr que ça se soutient bien, mais avec le temps et avec les années, ça peut devenir rapidement pas confortable quand le sein est soumis à la gravité. Donc, on voit avec quand les seins sont très lourds, ils vont descendre.
Ouais.
Puis, en fait, ils descendent et en les gardant collés sur la peau de la portion supérieure de l'abdomen, souvent, ça va faire de l'humidité et ça peut faire des petites plaies, des petites infections ou des petites infections à champignons. Ce qui n'est pas très confortable et qui peut amener des odeurs un peu désagréables. Donc, les femmes qui ont les seins plus gros, plus lourds, vont encore avoir tendance à garder leur soutien-gorge.
Je vois, d'accord. On parle d'esthétique et tout. Bon, on sait aussi qu'il y a cette partie qui est un peu plus triste, c'est la reconstruction suite à un cancer.
Ouais.
Pouvez-vous nous en parler, docteur Tardy?
Bien, bien sûr. On a quand même la chance aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a quand même peut-être 15 ou 20 ans, d'avoir... les patientes ont accès beaucoup plus facilement à la reconstruction du sein post-cancer.
Mm-hmm.
Parfois, les patientes qui sont à l'extérieur de la grande région métropolitaine ou des grandes régions peuvent avoir un accès un peu plus difficile par manque de plasticiens en région pour être capables de faire la technique. Mais règle générale, je vous dirais que le nombre de reconstructions, nous, c'est en croissance, là. Depuis, je vous dirais, sur les 10 dernières années, on ne fait qu'augmenter notre nombre de patientes que nous reconstruisons. Et l'âge pour la reconstruction, en fait, il n'y en a pas d'âge pour la reconstruction.
D'accord.
Certaines patientes peuvent dire, mais vous savez, moi, j'ai 70 ans, moi, j'ai 75 ans, puis j'ai plus besoin, en fait. Faut pas voir le besoin, faut voir le goût de la patiente. Est-ce qu'elle a vraiment envie de toujours porter un implant externe dans son soutien-gorge? Si son âge, on ne parle pas de son âge numérique, mais son âge biologique. Pour moi, l'âge biologique, c'est l'état de santé, c'est les comorbidités. Si l'âge le permet, il n'y a pas de contre-indication, même à un âge plus avancé. de faire la reconstruction de sein.
D'accord. Puis c'est à quel moment les femmes, après un cancer du sein, c'est à quel moment elles viennent vous voir?
En fait, avec nos chirurgiens généraux, oncologues qui font la mastectomie, souvent, on va les voir avant leur intervention pour enlever le cancer. Ça nous permet d'être présents avec le chirurgien général oncologue pour débuter les étapes de reconstruction en salle d'opération. Donc, il n'y a pas de... On sauve une intervention chirurgicale, dans le fond, en étant là avec le chirurgien général. Et ça empêche les femmes de se voir trop longtemps sans sein, sans galbe, sans rien.
D'accord. Donc, vous êtes là au moment de l'opération, ce que je veux comprendre.
Oui, on commence immédiatement au moment où ils font l'ablation du sein. On peut commencer la première étape de la reconstruction. Donc, ça demande un peu de planification. Ça demande des équipes qui sont un peu organisées. Mais on le fait et ça fonctionne très bien.
Donc, au préalable, vous avez rencontré la patiente qui a manifesté le désir d'avoir la reconstruction rapide. Parce qu'il y a des femmes aussi qui décident de ne pas aller vers la reconstruction, du moins tout de suite.
Ces femmes-là, en fait, on peut même les rencontrer quand même avant pour leur donner les options.
D'accord.
Et leur donner le loisir de réfléchir à ce qu'elles veulent.
Oui.
Parfois, elles disent « non, j'en veux pas », puis c'est correct. C'est correct. Puis ça peut arriver avec le temps, avec les années, qu'ils viennent nous revoir quelques années plus tard en disant, vous savez, j'ai de la misère avec mon implant externe. Quand je fais certains mouvements, il se déplace. Je ne me sens pas bien. Puis j'aimerais ça voir si on est capable d'en parler. Bien, il n'y a pas de problème. On peut encore procéder. On ne s'est pas coupé de pont.
Oui.
On ne s'est pas enlevé d'option.
Tout à fait. Ah, alors, on a toujours, c'est un sujet quand même délicat pour nous, les saints, parler des saints, mais on voit que pour toutes les femmes, c'est quelque chose, c'est une préoccupation, hein, de très très jeune et jusqu'à l'âge adulte et même dans le début de la vieillesse aussi.
Oui, alors, absolument.
C'est ça. Je suis toujours avec docteur Michel Tardy, chirurgienne esthétique en reconstruction. Je poursuis avec vous, docteur Tardy. On parle d'esthétique, hein, donc alors on parle aussi parfois d'histoires d'horreur dans le tourisme médical, entre autres. Qu'avez-vous à dire là-dessus? J'aimerais vous entendre sur peut-être aussi les précautions à prendre si une femme décide tout de même de choisir cette option d'aller ailleurs. Parce que avec vous, on a écouté, on voit qu'il y a un processus très médical, mais aussi l'accompagnement psychologique de la patiente qui vient vous voir. Mais ces histoires d'horreur qu'on entend dans le tourisme médical, qu'avez-vous à dire là-dessus?
En fait, moi, ce que je trouve triste, c'est souvent une question de coût. Les patientes vont décider d'aller se faire opérer dans d'autres pays pour avoir une chirurgie à un coût moindre, sans penser aux faits, à certains faits, comme on ne connaît pas le chirurgien qui va nous opérer, on ne l'a jamais rencontré. On ne développe pas de relation thérapeutique avec le chirurgien. Et une fois qu'on a passé la semaine ou les deux semaines dans le coin-là, ben on ne le reverra pas, ce chirurgien-là. En fait, il y a plusieurs patientes qui reviennent avec des complications, avec des plaies qui ouvrent, avec des implants qui sont infectés, avec différents problèmes. Puis ils sont laissés à elles-mêmes. On va temporiser via les hôpitaux quand la patiente se présente dans un état tellement grave qu'il peut avoir des répercussions sur sa santé. Mais éventuellement, c'est un problème esthétique. Donc, la patiente doit se retrouver un autre chirurgien pour se faire corriger, se faire suivre, et ça va engendrer des coûts qui sont beaucoup plus supérieurs à simplement les coûts qu'elle aurait eu à se faire opérer ici au Québec. Donc, c'est des choses que... Puis souvent, c'est plus facile aussi opérer, régler la complication immédiatement quand elle arrive. Et on a des meilleurs résultats que si la complication se produit et il y a un dommage. Vous comprenez?
Oui.
La chirurgie secondaire va être beaucoup moins, il y a beaucoup moins de garanties d'avoir un bon résultat
oui.
en reprenant des complications. Puis l'autre chose, c'est que quand ces patientes-là reviennent,
mm-hmm.
ben on ne connaît pas nécessairement les techniques qui ont été utilisées. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On est vraiment dans un milieu un peu dans l'inconnu.
Dans l'inconnu.
Oui, ça devient beaucoup plus difficile de régler les problèmes.
Puis vous devez réparer le dégât, quoi.
C'est ça. C'est
ouais.
ça. Puis on ne connaît pas l'ampleur des dégâts avant d'ouvrir puis d'aller voir à l'intérieur.
OK. Et dans votre pratique, ça représente quel pourcentage de femmes qui vous reviennent comme ça?
Je vous dirais qu'on en voit, moi, dans ma pratique, là, j'en vois une à deux par mois.
Ah oui, tant que
c'est
ça.
C'est quand même beaucoup.
Ben
c'est
oui.
quand même beaucoup. Je serais curieuse de à ma connaissance, il n'y a pas de décompte de ces patientes-là qui arrivent mmh. avec les complications. Je serais curieuse de savoir quelle quantité on a, parce qu'on a l'impression, en jasant entre collègues, on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'on pense.
Ah oui, wow. On en parlerait encore longtemps avec vous, docteur Michel Tardy, mais c'est tout le temps que j'avais pour vous.
Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
Oui, vraiment un grand merci parce que vos réponses ont été éclairantes et puis merci vraiment d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir.
Restez avec nous, chers auditeurs, auditrices. En deuxième partie, nous allons poursuivre avec Nathalie Lagacé, auteure du livre « Le poids des seins ». Vous écoutez la nouvelle émission « Vivement les femmes » au micro Marjorie Théodore. Avec la docteure Michèle Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, je reçois en deuxième partie d'émission Nathalie Lagacé, auteure et illustratrice du livre « Le poids des seins ». À part « Le poids des seins » sorti en 2021 chez les éditions de Lysatis, elle a fait paraître le roman « Terminus » en 2016, dans lequel le personnage principal, une femme, pratique le métier non traditionnel de conductrice d'autobus, et le roman jeunesse « Le poids de la couleur rose » en 2021. Bonjour Madame Lagacé et bienvenue à Vivement les femmes.
Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous.
Alors, Madame Lagacé, après le poids de la couleur rose, on vous retrouve avec le poids des seins. Sujet tout autant audacieux que le précédent, ouais, qui parle en fait du poids de la féminité chez les filles. Vous avez pu écouter en début d'émission Dr. Michèle Tardy, chirurgienne plastique et esthétique, qui nous fait prendre conscience que finalement, ce poids de la féminité, qui est le sujet de votre livre, est tellement encore présent durant toute la vie d'une femme, hein, on s'en sort jamais, ça nous colle à la peau, on s'en sort jamais. Donc, j'aimerais savoir, vous, quel a été le déclencheur pour écrire ce livre?
C'est quand même récemment, j'ai réalisé que même en approchant la cinquantaine, je me limite parfois à faire des choses... parce que je suis une fille, parce que je sens qu'il y a de l'insécurité. Et puis, à un certain moment donné, ça m'a vraiment frappée. Je me suis dit, mais si j'étais un homme, je ne me serais pas limitée à faire l'activité que je voulais faire. Et puis, ben c'est ça, j'avais envie de parler un peu de cette pression sociale-là, la différence d'être une femme et un homme. Je voulais vraiment mettre l'accent sur ce poids, cette pression-là sociétale qu'on peut ressentir.
Oui. Puis, on parle des seins, on sait que c'est un organe que en tant que fille, on n'a pas à notre naissance. Vous dites d'ailleurs une très belle phrase, je pense à la page 18, « Deux seins en plus peuvent suffire à tout bouleverser ». À celles qui n'auraient pas lu votre livre, dites à quel bouleversement vous pensez lorsque vous avez écrit cette ligne.
Mais c'est que c'est vraiment à partir du moment où on commence à avoir des seins qu'on sent que le regard des autres change autour de nous. On sent justement que notre corps se sexualise, qu'on est encore très jeune. C'est un poids qui est difficile. Pour certaines filles, c'est même un choc. C'est quand je disais ça. C'était vraiment pour dire que c'est à partir de ce moment-là où je crois que l'enfance disparaît, qu'on réalise que on va toujours avoir quelque chose de différent à vivre avec. Ouais, c'est un petit peu ça. Est-ce que ça répond à la question?
Oui, tout à fait. lorsque j'étais en train de vous écouter et je me disais aussi, est-ce que vous êtes replongé dans votre, pas adolescence, même dans votre, dans le début, lorsque vous avez eu vous-même des seins? Est-ce que vous, pour écrire un livre comme ça, vous êtes replongé pour avoir aussi ce que vous avez ressenti à ce moment-là?
Oui, tout à fait. Un peu comme dans n'importe quel sujet, faut se replonger ou se mettre dans la situation. Puis oui, c'est un peu écrire ça, ça me fait un peu revivre ces moments-là où à cet âge-là, on a de la difficulté à cerner nos ressentis. On a de la frustration, des inquiétudes, puis on n'a pas toujours les mots pour les identifier. Et puis, oui, c'est ça, je me suis remis un peu dans cet état-là, puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai écrit le livre. J'avais envie de mettre des mots pour les jeunes filles, pour qu'elles puissent réaliser peut-être ce qu'elles peuvent ressentir. Là, on parle beaucoup du poids négatif, mais il y a aussi dans le livre le poids positif. Il y a différents aspects qui sont menés, là. Je pense que on peut penser que c'est un peu négatif pour le coup, là, quand à nous entendre parler, mais je pense que le livre en général est vraiment très positif. Je souhaite que ça allume une petite flamme chez les jeunes filles. Puis c'est sûr que je me suis mis dans la peau des jeunes filles, mais dans le livre, il y a d'autres thèmes aussi où on est plus âgé. Puis bon, je suis pas rendue là, mais je vais mettre dans la peau aussi de comment ça peut être quand on vieillit et tout. Écrire un livre, c'est assez bouleversant par moment.
En effet, oui. Et aussi, c'est ça, parce que vraiment, moi, je l'ai lu, hein, puis je peux dire que c'est autant pour les jeunes filles que pour des femmes déjà, parce que en plus, la façon que vous avez amené le tout, donc c'est un livre qui se lit très, très bien, facilement, les images, etc. Donc, j'ai envie de vous poser la question, c'est sûr que... avec les filles portent tout le poids de leur sein désiré, comme on lit dans votre album. Et lorsqu'on sait que 80% des femmes, comme on en parlait avec Dr Tardy, sont insatisfaites de leur sein, on se demande comment alléger le poids, justement. S'adresser aux jeunes filles comme vous le faites dans votre livre, est-ce que ça peut avoir un effet, par exemple, de favoriser l'acceptation de son corps, de valoriser la diversité corporelle aussi, parce qu'on parlait aussi d'asymétrie, des seins, etc. Avez-vous eu cet objectif aussi en écrivant?
Oui, puis surtout en l'illustrant également. Dans mon livre, je voulais vraiment que ce soit un portrait réel de ce que peuvent être des seins. C'est important pour moi de montrer autre chose que ce qu'on est vraiment habitué de voir. Et puis, excusez-moi, j'ai perdu la question.
Oui, non, c'était de savoir est-ce qu'il y avait un effet aussi d'aller pour que la jeune fille accepte son corps puis valorise aussi la diversité parce que vous avez dans les illustrations, on voit toutes formes de seins. Donc, est-ce que c'était aussi dans le but de dire que ben, il y a toutes sortes de seins, il faudrait aller vers l'acceptation de son corps comme il l'est?
Oui, tout à fait. C'est vraiment important de mettre l'accent là-dessus, puis de montrer différentes facettes, celles qui l'acceptent bien, celles qui l'acceptent moins bien. C'est vraiment un aspect essentiel. Puis aussi de montrer le portrait de femmes qui ont amené à notre à la grande chance qu'on a de nos jours de pouvoir se sentir plus libre. Donc libre de d'être comme on est, comme on veut être, comme ce que l'on veut devenir. C'est ça. Fait que oui, c'était vraiment très, très important. Puis j'ai même refait plusieurs illustrations pour m'assurer qu'il y ait un équilibre dans tout ça. Soit dans la forme des seins, dans l'ethnicité également.
Oui.
C'est très important.
Oui.
Surtout quand on parle aux plus jeunes. C'est important d'amener cet aspect-là.
Moi, ce que j'ai lu puis que je peux confirmer, c'est que vous avez quand même, de façon subtile, mais parlé de toutes ces différences hein, qu'on peut avoir. Vous avez parlé de l'homosexualité, du genre. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Comment... vous avez fait pour amener tout ça là, dans un livre tellement accessible?
C'est ça, au départ, c'était vraiment un livre que je voulais faire pour parler principalement du changement physique, de ce que ça apportait. Puis de fil en aiguille, il y a différents thèmes qui se sont joints à ça. Puis finalement, j'ai essayé de couvrir un petit peu tout, que ce soit des seins que l'on n'a pas, que l'on ou qu'on a ou qu'on devrait pas avoir, si on parle d'identité de genre, des seins également qui font partie de la vie, les seins que j'appelle humanité, ceux si on parle de l'allaitement, c'est vraiment quelque chose qui s'est construit tranquillement. J'avais un fil de départ, mais à la fin, ça donnait un résultat complètement autre que ce que je croyais. Puis je suis vraiment contente qu'on ait pu travailler ça. C'est sûr que la maison d'édition a travaillé avec moi, puis on soulève des questions, c'est des discussions qui nous amènent justement à des nouvelles réflexions. Puis c'est un travail d'équipe en bout de ligne qui nous a amené à avoir ce livre-là là, dans l'état où il est en ce moment.
Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un livre que vous conseillez aux jeunes garçons en lecture?
Oh, je l'espère. Moi, j'espère vraiment que les jeunes garçons puissent lire ça. C'est sûr qu'ils ont plein d'images de seins à regarder. Ça peut peut-être les attirer le premier coup d'œil. Oui. Mais j'espère que ça va aller plus loin que ça. C'est de comprendre les filles. On est tellement différentes, les filles et les garçons. Puis à cet âge-là, on a beaucoup d'insouciance. On réalise pas le mal qu'on peut faire par des simples réflexions. Alors oui, j'espère que c'est quelque chose qui peut... être feuilleté par les garçons, les hommes également. J'ai des hommes qui l'ont lu puis qui m'ont dit que ça leur avait fait réaliser la différence qu'on pouvait vivre comparativement à eux. Et puis, j'ai essayé de faire un livre aussi qui était avec des textes simples et percutants, très courts, parce que justement, je pense que ça circule déjà dans les écoles, là, mais j'avais le désir justement que les professeurs l'amènent dans leur classe pour justement susciter des discussions, étant donné que c'est pas trop volumineux, qu'il y a beaucoup d'images, c'est quand même facile de faire une période, puis de le passer au travers, d'avoir des belles discussions, parce que être une fille, c'est aussi vivre avec les garçons, puis vice-versa, on doit vivre ensemble. Alors oui, j'espère vraiment que les garçons, les hommes vont pouvoir passer au travers ce livre-là, découvrir les choses, en fait.
Oui. Alors, restez avec nous après la pause. Je vais continuer la discussion avec Nathalie Lagacé, auteure et illustratrice du livre « Les poids des seins », paru en 2021. Donc, on revient tout de suite.
A brand new day has come. Seems like a brand new day. A brand new day has come for you. Plus rien ne t'arrête. Plus rien ne t'arrête. Que ta vie soit une fête.
Plus rien ne t'arrête.
Que des joies sans tempête.
Plus rien.
Ne t'arrête.
Go Get It, une toute nouvelle chanson de Dominique Fils-Aimé. Puisque nous parlons de jeunes filles, ben Dominique Fils-Aimé a composé cette chanson pour contribuer à un monde où les filles pourraient rêver aussi grand qu'elles le souhaitent. Alors, je suis toujours en présence de Nathalie Lagacé, auteure et illustratrice. Nous poursuivons la conversation sur son livre « Le poids des seins ». Madame Lagacé, outre l'album « Le poids des seins », vous avez fait paraître aussi un roman jeunesse qui a pour titre « Le poids de la couleur rose ». Comme femme, trouvez-vous la féminité lourde à porter ou encore êtes-vous particulièrement inspirée par le sujet? Parce qu'on retrouve ce sujet un peu dans les deux livres.
Oui, ben c'est le même thème, là, effectivement. Ben dans le fond, c'est quand même deux exercices différents pour moi d'écrire un roman, de faire un livre illustré. Alors, c'est intéressant au niveau artistique d'explorer les deux facettes différentes. Mais oui, c'est sur le même thème parce que oui, je trouve ça quand même je trouve que c'est un poids quand même assez lourd à porter, celui d'être une femme. Mais je changerais pas ma place pour devenir un homme. Je veux dire, j'apprécie être une femme. Être une femme, c'est aussi une grande force. C'est un peu contradictoire, mais je veux dire, si on pense à toute l'histoire, tout ce que les femmes ont dû passer au travers, puis ce que l'on doit continuer de faire pour s'assurer d'avoir un respect, puis de garder nos droits. Mais c'est ça, comme j'ai dit, il faut continuer de se battre. C'est quelque chose qui, je pense, sera toujours là. C'est tout à notre honneur, d'une certaine façon. Alors oui, c'est un poids difficile à porter, mais je suis fière de le porter.
Je vous appuie aussi, je suis d'autant plus fière. Alors, aussi dans le livre, j'ai particulièrement adoré le passage qui se trouve, je pense, aux pages 29, 30 et 31, et je vais en faire lecture. Alors, pour défendre les droits des filles et des femmes, se sont levées les premières féministes, des femmes fortes aux saints justice, des saints histoires aux grandes victoires, des femmes à ne jamais oublier, à continuer d'honorer, des femmes aux saints combats. Madame Lagacé, vous avez pris le temps de nous remettre en mémoire des femmes telles que Rosa Parks, afro-américaine et figure notoire dans la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis, Simone de Beauvoir, Marie Curie, pour ne nommer que celles-là. Pour vous, votre livre s'adresse aux jeunes filles. Était-ce important de souligner le travail de ces femmes au saint combat, comme vous le dites, et pourquoi?
Je trouve ça très important parce que même moi, j'ai grandi dans une espèce d'éducation où les femmes avaient déjà fait une grande partie du chemin, où on m'a toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie. Je pense qu'on oublie, souvent qu'il y a eu des batailles énormes qui ont été faites, des combats énormes qui ont été faits pour justement nous permettre de pouvoir être ce qu'on est en ce moment. Puis je pense que c'est bon de le rappeler, de allumer une petite conscience, de dire il y a des gens qui ont fait ça pour notre grand bien à toutes les femmes. Et puis il ne faut pas l'oublier. Puis il y en a qui sont aussi dans les exemples qui sont présentement sont pas décédés. C'est pas juste il y a ceux qui sont loin dans l'histoire. Il y en a une qui est plus jeune, que Malala Yousafzai. Alors c'est quelque chose. J'espère que le livre peut justement inspirer certaines filles à continuer à amener le combat, puis réaliser qu'il y en a un combat à amener, qu'il faut être prudente si on veut continuer de vivre épanoui.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Puis ce que je trouvais intéressant, le fait d'amener ça aussi, c'est que bon, le livre parle de un peu le poids de cette féminité, mais de démontrer aussi qu'avec même le poids de cette féminité, on fait des grandes choses, on peut rêver, on peut... accomplir, et puis ces femmes ont tracé le chemin. Donc, j'ai particulièrement aimé ça. Et puis, j'aime beaucoup lorsqu'on parle des femmes au saint combat. Je m'identifie un peu parce que je suis une combattante dans l'âme. Et j'ai adoré, pour vous dire. Alors, et ce que je vois aussi, c'est que votre livre a suscité beaucoup de critiques élogieuses et a obtenu le sceau d'approbation des libraires. Il y avait tellement de critiques élogieuses qu'à un moment donné, j'arrivais plus à en lire parce qu'il y en avait, comme on dit, des tonnes de copies. Et puis, à la lumière de ces réactions, est-ce que vous est-il venu à l'esprit que vous avez... il y a quelque chose que j'ai oublié d'intégrer. Puis est-ce que aussi vous avez comme d'autres idées sur les saints ou d'autres choses que vous pourrez faire? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation de ce livre-là à l'école, mais il y a eu beaucoup de professeurs, j'ai vu dans les éloges, qui vous ont dit comment que ça a été aidant de l'utiliser dans leur classe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez oublié de dire, que vous auriez aimé y ajouter, ou dans un autre aussi livre?
Disons que je suis passée à autre chose maintenant, parce que j'ai d'autres projets. Je pense que celui-là, pour moi, personnellement, je trouve, je suis contente, il est complet, mais je suis ouverte là à s'il y a des gens qui ont des choses à me proposer. Disons que non, c'est ça, je suis vraiment, je suis rendue dans un autre projet là, en ce moment, qui est en dehors des saints.
D'accord.
Puis en ayant fait aussi le roman Le poids de la couleur rose, Le poids des saints, je pense que j'ai fait le tour sous différents aspects. Mm-hmm. Puis non, je pense que c'est ce qui me resterait peut-être que j'aimerais peut-être faire. C'est sûr qu'avec la pandémie, puis je suis pas au Québec en ce moment, c'est un peu difficile, mais faire un tour dans les écoles, j'adorerais ça, pouvoir faire des ateliers puis en parler justement avec les jeunes. Okay. C'est peut-être plus ça qui me manque, là, mais sinon, pour ce qui est du sujet comme tel, je pense que moi j'ai fait le tour.
OK. Est-ce que vous êtes toujours dans des projets d'écriture? Vous laissez pas l'écriture?
Oui. Non, je continue. Il y a un livre qui devrait paraître cette année, un autre livre dans la même maison d'édition.
D'accord.
Puis je suis en train d'écrire là, présentement un roman. Là. Alors oui, je continue. Je donne pas de points précis parce qu'on ne sait jamais. La création, des fois, ça change,
oui.
Puis ça prend d'autres tournures, mais je continue mon chemin dans cette direction-là là, quand même.
Mais on va vous suivre parce que peut-être on va pouvoir vous inviter de nouveau avec d'autres écrits aussi stimulants et bien faits. Lorsque le livre est sorti, vous, dans votre entourage, vous avez certainement peut-être des neveux, des enfants. Est-ce que quel a été le feedback? Avez-vous eu un feedback des jeunes lecteurs ou lectrices et lectrices?
J'en ai pas eu tellement. J'ai beaucoup de commentaires d'adultes, de blogueurs, de blogueuses plutôt.
Oui.
J'ai pas eu d'hommes. Il y a beaucoup plus de blogueuses en littérature que d'hommes, là,
oui.
En tout cas, pour la jeunesse.
Mm-hmm.
C'est ça. Non, j'ai pas eu vraiment de commentaires directs. J'ai eu des une recension d'une jeune fille qui parlait de l'autre, le livre Le poids de la couleur rose. C'est toujours très touchant. Mais moi, peut-être pour vous situer un petit peu, je suis vraiment isolée en ce moment. Je suis au Texas. Alors, je suis pas près de ma famille ni de mes amis. Quoique avec le COVID, je pense que c'est difficile pour tout le monde de pouvoir se connecter en ce moment. Mais c'est ça, en tout cas, j'aimerais vraiment avoir des commentaires sur les jeunes, mais malheureusement, j'en ai pas eu
directement.
Non, pas directement.
Parfait.
C'est indirect.
Oui, ouais. Par les professeurs. Mm-hmm. En tout cas, j'en ai
oui,
trouvé
exactement.
Sur Internet, etc. Vous êtes auteure et illustratrice. Donc, est-ce que l'illustration, c'est une compétence que vous faites ailleurs ou que dans les livres? Est-ce que vous le faites toujours dans vos livres ou c'était cette édition qui était aussi bien illustrée?
Dans mon roman Le poids de la couleur rose, il y a une trentaine d'illustrations dedans aussi. C'est pour les premiers lecteurs. Alors, 10-12 ans, les illustrations, c'est toujours un petit peu plus amusant quand on commence à lire. On se sent un petit peu moins intimidé par un gros livre avec juste du texte.
Oui.
Alors, il y a beaucoup d'illustrations dans celui-là. J'ai illustré un autre livre aussi pour La jungle, ça s'appelle. C'est dans la même maison d'édition.
Mm-hmm.
Mais j'aimerais bien continuer... De poursuivre dans cette lignée-là. Mais les deux livres dont on parle en ce moment, c'est suite à une recherche. C'est vraiment nouveau pour moi là, de rentrer dans le milieu jeunesse.
Mm-hmm.
Alors, je peux, je suis à mes tout débuts.
Oui.
Alors, j'espère bien pouvoir continuer là-dedans. C'est vraiment quelque chose qui m'anime dans les deux sphères de création parce que je fais beaucoup d'illustrations en art visuel.
Mm-hmm.
J'ai fait des expositions dans le passé. Mais je trouve que on dirait que je sens que j'ai trouvé un peu plus ma voix, illustrer des mots, puis d'écrire en même temps, c'est vraiment le meilleur des deux mondes là, pour moi.
Ah oui. Vous avez écouté l'entrevue que j'avais avec Dr. Michel Tardy, qui nous fait encore prendre conscience comment que c'est... Que ce poids de la condition féminine nous porte jusqu'à très tard, hein? Donc, parce qu'elle parlait de patientes entre 14 et allant même à 70 ans. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, vous, pour avoir écrit, pour avoir fait ressortir cela dans un livre aussi pour les jeunes?
Ben c'est important de prendre conscience aussi des femmes qui nous entourent. Si j'ai mis des sections qui touchaient peut-être un peu plus la femme adulte ou la femme plus âgée avec la puberté, j'avais quand même le souhait en faisant ça de pouvoir toucher différentes générations. Dans le but justement d'ouvrir des discussions dans les familles, dans les écoles, de pouvoir toucher un peu les gens un peu dans différentes tranches d'âge pour qu'on puisse s'unir, puis en parler, puis rendre ça plus, plus léger, quoi.
Oui, oui. Tout à fait. Donc, Madame Lagacé, c'était très agréable de vous entendre. J'aimerais terminer en lisant les pages 54 et 55 de votre livre. Je crois que c'est une belle note d'espoir pour les jeunes filles en devenir, mais également pour les femmes que nous sommes. Et moi, j'ai adoré. Donc, alors, la fin, vous dites, mais surtout, quel que soit le poids à porter, les filles continueront d'avancer. Oui, les filles continueront de se battre fièrement et de faire leur chemin parce qu'elles ne se limitent pas qu'au poids de leur sein. Merci, Madame Lagacé, d'avoir autant démystifié ce stéréotype et amené un sujet aussi lourd de sens accessible aux jeunes filles. Madame Lagacé, auteure et illustratrice du livre Le poids des seins, merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève cette émission. Ici Marjorie Théodore qui vous dit à la semaine prochaine. Vivement les femmes ira à la rencontre de d'autres femmes ayant tant de choses à dire. Merci à l'équipe, Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de la diffusion technique.